of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. John Lyndon à la présentation, Lionel Gaïma sur la production de cette émission à assister des Tchèques. Installez-vous confortablement et on se retrouve dans un instant. Dans l'Amérique et vous, ce vendredi, nous parlons du bilan de Donald Trump, un an après son élection à la tête des États-Unis. Élu le 8 novembre 2016, Donald Trump s'est installé à la Maison-Blanche depuis le 20 janvier dernier. Nous revenons donc sur la première année du président américain depuis son élection à la tête du pays. Dans son discours d'investiture à Washington, M. Trump avait brossé un tableau sombre des États-Unis, évoquant notamment une mauvaise situation économique et une criminalité galopante avec des rues gangrénées par les gangs. Il accusait aussi les politiques d'être des opportunistes gâtés ayant prospéré au détriment de la population. Il s'engageait à mettre un terme à ce carnage américain. Un an après son élection, quel bilan peut-on faire du travail de Trump en tant que président des États-Unis? C'est sur cette question que nous allons débattre avec nos invités. Vos commentaires et réactions sont les bienvenus sur Facebook et en direct au 001-202-205-2623. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur www.voafrique.com. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons l'ancien ambassadeur Herman Cohen depuis Washington. Excellence, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre disponibilité. Vous restez avec nous. On va accueillir depuis New York le professeur Souleymane Béchir Diagne. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes de Columbia University à New York. Merci aussi pour votre disponibilité. Et puis on a Alassane Fall, consultant depuis Cleveland. Alassane, bonsoir.
Bonsoir, John.
Alors, merci pour votre disponibilité à tous. Hein. On va commencer par une première question. Quel commentaire faites-vous de Trump en tant que président un an après son élection? On va commencer par l'ambassadeur Cohen.
Il faut comprendre que président Trump n'avait pas d'expérience dans la politique. En général, les présidents des États-Unis avant étaient gouverneurs d'État ou sénateurs dans le Congrès, mais lui, il était vierge dans la politique. Donc, depuis son élection, il y avait une certaine turbulence dans son mandat, n'est-ce pas? Et il a une tendance à dire des choses sans réfléchir. Donc, ça a causé certains problèmes. Mais en général, Il n'a pas réussi pour le moment, malgré le fait que les républicains contrôlent le Sénat, la Chambre des représentants et la présidence. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à soutenir les promesses que M. Trump a faites. Par exemple, il a fait une promesse de changer tout le système d'assurance santé qui a été mis en place par président Obama. Et le Congrès a essayé, mais il ne pouvait pas voter la nouvelle loi. Donc, il était très déçu. Et maintenant, il essaie de faire une réforme dans les impôts. Et ça, c'est très lent et il est très impatient.
Voilà, donc, on va développer tout cela tout au long de l'émission. Excellence, donc je vais prendre le professeur Souleymane Béchir Diagne. Vous, quelle idée vous faites-vous du président Donald Trump un an après son élection?
Je crois que M. l'ambassadeur a raison et les faits actuels se sont chargés d'une certaine manière de tirer le bilan de la première année du président Trump, parce que nous le savons, il y a une série de défaites électorales de son parti qui viennent d'avoir lieu. Il y a aussi un scandale qui menace d'emporter le candidat républicain de l'Alabama pour le Sénat, un candidat dont l'élection semblait à peu près semblait plus
assurée, tout à fait.
Voilà. Et donc les faits sont là, qui sont en train de donner d'une certaine manière le bilan eux-mêmes de la première année du président Trump. Bilan qui tient à la fois, monsieur l'ambassadeur l'a rappelé, à des promesses électorales qui n'ont pas pu être tenues. La principale promesse ayant été de défaire ce que le président Obama avait fait en matière d'assurance maladie, cela n'a pas pu se faire. Et non seulement ça n'a pas pu se faire au Sénat, mais il apparaît qu'en fait, cette loi, le peuple américain se l'est appropriée. C'est-à-dire que les gens tiennent à leur assurance maladie, telle qu'elle a été définie par la loi Obama, même si, évidemment, il y a des aspects qu'il faut revoir, sur lesquels il faut apporter des correctifs.
Voilà.
Donc, cette appropriation de la loi, je crois, ainsi que les défaites électorales, dit assez quel est le bilan du président.
Voilà, merci. Professeur, on va sur le point de vue d'Alassane Fall. Vous êtes consultant. Vous, qu'est-ce que vous dites de Trump un an après son élection?
Écoutez, moi, je pense que le bilan est sombre. C'est ce que je pense. Il y a toujours une division sociale qui règne donc tout autour du pays. La politique étrangère américaine, tout le monde le connaît maintenant, il y a toujours des difficultés. La Corée du Nord est un exemple qui n'est pas encore éclair. Maintenant, sur le plan économique, il y a quand même une amélioration. Et si on fait une analyse objective, c'est que depuis 8 ans, donc l'économie américaine est en trajectoire, donc c'est parce qu'il a hérité donc une base économique très solide qui a été vraiment fixée par l'ancienne administration. Si nous prenons son taux d'acceptance aujourd'hui, donc 58% des Américains n'approuvent pas donc ce qu'il fait, contre 36%. Il y a l'affaire de la Russie qui est encore toujours, parce qu'avec les récents événements de l'inculpation des gens qui sont proches de la Maison Blanche, aujourd'hui 66% des Américains disent que le président donc connaissait ce qui se passe entre la Russie, donc de ce côté-là. En matière de législation aussi, il n'y a pas une grande législation qui a été réalisée. Donc, en général, et avant même, laissez-moi ajouter ici, parce que hier, là, quand je regardais la télévision, le ministère ou bien l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, il y a les postes clés qui n'ont pas encore été
fournis. Tout à fait.
Donc, en général, moi, je dis que le bilan est, je ne peux même pas dire un bilan mitigé, parce qu'il n'y a pas de grande réalisation à ce point.
Voilà. Ambassadeur Cohen, est-ce qu'un an, ce n'est pas très tôt pour un président d'avoir un bilan élogieux, et sachant que M. Trump n'a jamais fait de politique avant, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on n'est pas un peu sévère envers lui?
Je crois que oui. C'est possible que dans la deuxième année, il va faire des choses bien, à mon avis. Et c'est surtout les gens dans le Congrès, les républicains qui sont en majorité, ils doivent se ressaisir parce qu'ils sont en face d'une élection en 2018, au mois de novembre, dans un an. S'ils n'arrivent pas à faire des choses qui améliorent la vie des Américains, il risque de perdre le contrôle du Congrès vers les démocrates. Donc, il faut que cette année qui vient, il faut qu'il fasse des choses. J'espère que M. Trump sera moins turbulent qu'avant, qu'il va se contrôler mieux avec les conseillers qu'il a maintenant, surtout le général Kelly, un vétéran de 4 étoiles dans l'armée. Donc, je suis modérément optimiste qu'il va faire quelque chose de bien dans la deuxième année.
Professeur Souleymane Béchir Diagne, l'ambassadeur Cohen parle de l'amélioration des conditions de vie des Américains. Si on s'en tient à ce que Alassane disait tout à l'heure à propos de l'économie, que l'économie ça va quand même un peu, est-ce que c'est déjà pas quelque chose de fait?
C'est évidemment très important et Alassane Fall a dit également une chose très importante, c'est que l'économie américaine était déjà sur cette trajectoire-là. Elle a donc continué sur une bonne trajectoire qui a commencé sous le président Obama et c'est vrai que l'élection du président Trump, perçue par les milieux d'affaires comme favorable aux affaires, a probablement consolidé cette tendance à la reprise et au renforcement économique. Donc c'est là effectivement un aspect du bilan qu'il ne faut pas négliger du tout. Il y a un autre aspect, encore une fois, commencé avant lui, mais qui s'est affirmé sous sa présidence, c'est en politique étrangère, la guerre qui a été menée contre l'État islamique. Donc il y a des éléments de ce point de vue-là qu'il faut bien voir. Maintenant, espérer comme l'a fait Monsieur l'ambassadeur qu'il tournera enfin la page de cette virginité politique et qu'il deviendrait, j'ai bien aimé le mot de Monsieur l'ambassadeur, moins turbulent. C'est vrai qu'on a eu le sentiment pendant très longtemps que vierge politiquement, il n'apprenait pas non plus, parce qu'il avait déjà un caractère bien affirmé, et ce caractère, pendant sur beaucoup d'actions, l'a empêché au fond d'apprendre son métier de président. Les tweets intempestifs qui ont parfois provoqué beaucoup de turbulences précisément dans sa présidence, on ne voit pas trop comment il va changer de ce point de vue-là. Ceux qui espèrent qu'il changera disent que son caractère a été déjà suffisamment constitué à l'âge de 70 ans. Il est presque impossible d'imaginer qu'il change.
Mais
je suis comme Monsieur l'ambassadeur, je compte sur, nous pouvons compter sur un entourage qui lui est mature et qui est tout à fait expérimenté, un entourage de généraux, pour que les choses aillent à peu près mieux dans la deuxième année.
Alors, vous restez avec nous, chers invités. On va recueillir le point de vue de nos auditeurs. On a Christian Djarabié au téléphone depuis le Tchad. Bonsoir, Christian.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Alors, vous, qu'est-ce que vous dites du bilan de Donald Trump un an après son élection?
Oui, le bilan de Donald Trump, son bilan est quand même positif. Parce que c'est grâce à ce bilan qu'il a pu remporter l'élection. Il est en train de mettre en pratique ce qu'il a promis aux Américains. Donc, son rapport est positif. Mais j'aimerais poser une question à l'ambassadeur.
Allez-y.
Le plan sécuritaire et la lutte contre le terrorisme. Quel est le plan de Donald Trump contre l'insécurité en Amérique et contre la lutte contre le terrorisme?
Alors, ambassadeur Cohen, quel est le plan de Donald Trump contre l'insécurité en Amérique et la lutte contre le terrorisme?
Pour l'intérieur des États-Unis, président Trump a parlé des grands problèmes de crime dans les grandes villes, mais je crois qu'il se trompe un peu parce que les statistiques qui sont données tous les ans par la FBI dit qu'il y a une grande diminution de crimes aux États-Unis. Depuis 5 ans, ça a chuté 50%. Donc, c'est très important. Donc, il a une tendance à effrayer les gens en disant qu'il y a beaucoup de crimes, mais ce n'est pas le fait. Pour le terrorisme, il a donné l'autorisation à nos militaires d'agir indépendant, c'est-à-dire, c'est pas nécessaire de demander l'autorisation tous les jours du président. On voit ça maintenant en Somalie, où les attaques contre les Al-Shabaab sont en train d'être augmentées. Il y a des drones qui attaquent Al-Shabaab. Et aussi dans le Sahel, ils ont augmenté le nombre de conseillers américains qui sont avec le gouvernement du Niger, du Tchad, du Nigeria et du Mali. Donc, il va faire un effort beaucoup plus grand qu'Obama contre le terrorisme.
Alors, merci pour cette question, Christian Diarrivé. Merci à l'ambassadeur Cohen d'avoir répondu. Professeur Souleymane Béchir Diagne, on parlait d'Afrique tout à l'heure. Quel est ce qu'on peut tirer comme leçon de un an ou de l'année de pouvoir de Donald Trump par rapport à l'Afrique?
Alors, justement, il est significatif que M. l'ambassadeur, tout de suite en parlant de l'Afrique, ait évoqué la Somalie avec les Shabab et puis les interventions en Afrique de l'Ouest où il s'agit de lutter contre Acme, par exemple. Cela veut dire que ce qu'on craignait, on craignait au moment de l'élection du président Trump et son affirmation l'Amérique d'abord, que l'Afrique ne soit pas du tout dans sa ligne de mire, qu'il ne s'occupe pas qu'il y ait une indifférence qui malheureusement était traditionnelle en Amérique vis-à-vis de l'Afrique, et cette indifférence s'est accentuée. Alors justement, l'intérêt qu'il a porté à l'Afrique, qu'il va porter à l'Afrique, semble être uniquement centré sur les questions de sécurité. Récemment, les interventions en Afrique, M. l'ambassadeur l'a dit, ont tous été liées à des questions de sécurité. On a voulu que les États-Unis s'engagent à soutenir le G5, ce groupe de 5 pays du Sahel qui se sont coalisés avec la France pour essayer de lutter contre le terrorisme dans le Sahel. L'Amérique a été très réticente à apporter son soutien direct, si ce soutien devait être un soutien qui passait par des canaux multilatéraux, c'est-à-dire par les Nations Unies.
Tout à fait.
Elle a préféré avoir des relations directes. Donc, pour me résumer, on a le sentiment qu'en termes de partenariat, ce qui avait été enclenché sous le président Obama avec le sommet africain et avec l'Amérique et l'Afrique, malheureusement, cela a un peu disparu pour des relations uniquement liées à la sécurité.
Alassane Fall, qu'est-ce que le président Trump peut faire pour l'Afrique que Barack Obama n'a pas pu réaliser?
Ben, je ne sais pas, mais au moins il faut continuer donc la diplomatie américaine qui était donc les 3D, comme on les appelait, défense, diplomatie et développement. Comme le professeur vient de le dire, il semblerait qu'actuellement on s'apesante plus sur la défense. Donc il faudra revenir sur le développement, et là donc avec l'USAID qui jouait un grand rôle. Mais pour faire ça, il faut continuer de financer ces programmes-là. Moi, je me souviens, au mois de juin, on était sur le Hill, donc là-bas au Sénat, pour faire un peu de lobbying avec la US Global Coalition, je me souviens bien, parce qu'il y avait quand même une promesse de couper ou bien de diminuer donc l'apport des programmes internationaux, y compris donc les programmes africains. Je pense que ce qu'il peut faire actuellement, c'est de continuer au moins ces programmes, parce qu'il ne va pas augmenter ce qui est sur le budget, mais de continuer à financer donc ces programmes-là.
Alors, on va prendre un autre auditeur, Brahima Doumbia, bonsoir. En quelques secondes, votre réaction.
Bonsoir, je présente le bilan de M. Trump de façon mitigée. Il a promis de construire le mur entre les États-Unis et le Mexique, ensuite d'abroger la loi Obamacare. Je pense que de façon positive, surtout en Afrique, la pression des États-Unis contre la RDC, je pense que cela a porté son fruit. Je pense que M. Trump, quand même, dans les années à venir, il pourra mieux faire, surtout pour l'Afrique, je pense.
Voilà. Jacques Mayunyong d'Almeida, bonsoir, votre réaction.
Oui, bonsoir. Moi, je veux dire, Donald Trump, c'est quelqu'un, je demande à ce qu'on le félicite, parce que moi, je dis, dans le monde dans lequel nous sommes, il faut oser. Et c'est quelqu'un qui ose prendre certaines décisions. Il est clair que quand tu es président ou tu es dirigeant d'une organisation, ou n'importe, que ce soit si tu es dirigeant de quelque chose, tout ce que tu dois faire et que toi-même, tu penses que c'est pour la bonne marche. Moi, je dis, il faut oser prendre certaines décisions. Puisque quand on prend par exemple, il y a des décisions que Trump a prises. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment abordable. Il est vrai qu'il y a d'autres qui ne sont pas vraiment sociales. Mais disons, politiquement, si on laisse tout et on laisse le côté politique et qu'on veut être réaliste là, Moi, je dis, Trump, c'est quelqu'un, il ose, il veut, il a savouré que c'est au moins les États-Unis.
C'est entendu. C'est entendu, Jacques. On va faire un autre tour de table pour évoquer cette fois-ci les relations de Trump avec les médias. Et quelqu'un avait évoqué plus tôt les tweets de Trump. Est-ce que ça empêche à ce président de réaliser ce qu'il veut faire, cette guerre qu'il a avec les médias et ses tweets, ambassadeur Cohen?
Un grand problème de président Trump, c'est qu'il n'accepte pas les critiques des médias, c'est-à-dire les grands journaux comme le New York Times, Washington Post. La tradition aux États-Unis, c'est la liberté de la presse, c'est dans notre constitution. Et président Trump n'aime pas ça et il commence à faire des menaces contre la presse. Et ça, c'est très mauvais. Et c'est une des raisons, je crois, que les républicains viennent de perdre les élections de cette semaine. Parce que le public américain n'aime pas ça. C'est crypto-fasciste de faire ça. Donc j'espère qu'il va apprendre d'accepter les critiques. Il peut répondre aux critiques, bien sûr, mais de menacer la presse, c'est pas acceptable.
Voilà. Professeur Souleymane Béchir Diagne, comment expliquez-vous le fait que Trump, ou tout au moins son parti, il a avec lui le Sénat il a avec lui tous les représentants. Comment est-ce qu'il n'arrive pas à passer les lois?
Ben, écoutez, il y a d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, que la loi par excellence qu'il a voulu abolir,
c'est Obamacare, oui.
Obamacare. Des gens de son propre parti se sont rendus compte que les alternatives proposées n'étaient pas des alternatives viables, parce que remplacer cette loi, ça veut dire enlever à des millions d'Américains l'assurance maladie qu'ils ont maintenant. Il y a ce fait objectif. Il y a deuxièmement le fait que c'est vrai que son parti a la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, mais ce parti est profondément divisé, c'est-à-dire que on a l'impression qu'à la marge du parti, il y a des gens qui veulent attaquer le parti lui-même. Et il n'est pas sûr que le président Trump colle vraiment au parti républicain. On l'a vu lui-même attaquer des républicains. On sait que son allié Steve Bannon, de l'extérieur, attaque violemment également ce qu'il appelle l'establishment de ce parti. Donc le parti républicain est profondément divisé.
Alors,
par conséquent, la majorité est là, mais c'est quand même une majorité qui n'est pas très fonctionnelle, qui est assez dysfonctionnelle.
Alors, on va prendre Alassane Fall, un autre sujet qui a fait parler de Trump au cours de cette année, c'est l'immigration. Comment doit-il aborder cette question au cours des trois prochaines années?
Écoutez, moi je pense que quand même l'immigration a plusieurs facettes. Donc la matière de sécurité, là je suis un peu d'accord quand même, il y a des gens qui veulent venir nous faire du mal ici. Donc là, quand même il faut prendre des mesures pour la protection donc de nos citoyens ici. Mais je pense que essayer donc sélectionner des pays pour dire que il ne peut pas venir pendant un certain temps, ou bien ça c'est un peu difficile, par exemple, pour les étudiants qui veulent venir, donc les échanges, ceux qui ont les J1 visa qui veulent venir. Et là aussi, ça coûte extrêmement, aux institutions.
Voilà. Alassane, je vais vous arrêter juste un dernier tour de table, 10 secondes pour chacun. Qu'est-ce que Trump doit faire pour réussir, ambassadeur Raymond Cohen?
Je crois qu'il doit écouter les gens des États-Unis qui demandent meilleure assurance santé, surtout les hommes travailleurs. Les travailleurs n'ont pas avancé beaucoup pendant 10 ans maintenant. Il faut les écouter au lieu d'écouter les gens de Wall Street ou des grands banquiers.
Merci. Professeur Diagne, 10 secondes, qu'est-ce que Trump doit faire pour réussir?
Il faut qu'il rompe avec le climat d'ethno-nationalisme qui s'est installé. On a parlé d'immigration, c'est vrai que lutter contre l'immigration c'est une chose, mais installer un climat d'ethno-nationalisme, ça c'est autre chose. Ce qui fait que des membres de son propre parti ont dû rappeler des valeurs humaines fondamentales de l'Amérique, comme le sénateur McCain ou le sénateur Faith, et ils devraient écouter ce qu'ils ont dit.
Voilà, c'est la fin de cette émission de l'Amérique et vous présentée par John Lyndon. Lionel Gaïma était à la production. Cedric était à la régie. John Lyndon vous l'a présenté. Je vous laisse en compagnie d'Abdourahmane Dia pour les informations. Bonsoir.